carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Émilie Robbe, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes conservateur du département moderne du Musée de l'Armée aux Invalides. Ce département couvre la période qui s'étend de Louis XIV à Napoléon III. Il y a à peu près un an, vous nous aviez présenté la première partie des nouvelles salles de votre département, celle recouvrant la période de Louis XIV à Napoléon Ier. La suite et fin du parcours est désormais terminée, puisque depuis le 20 mars, les visiteurs peuvent à nouveau admirer les collections relatives aux années 1815-1870, c'est-à-dire des 100 jours à la Commune. Et c'est donc à ces nouvelles salles que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Mais je voudrais juste rappeler qu'avec ces nouvelles salles, donc le Musée de l'Armée clôture sa vaste entreprise de rénovation. Le parcours de visite donc est enfin, je dirais, disponible dans sa totalité. Et avant de se concentrer donc sur les dernières salles du premier étage, je voudrais qu'on évoque les deux anciens réfectoires des pensionnaires de l'Hôtel des Invalides, qui se situent eux au rez-de-chaussée. Tous deux donc sont décorés de peintures murales qui ont fait l'objet d'une importante campagne de restauration et qui constituent des espaces thématiques du nouveau parcours de visite. Alors Émilie Robbe, pouvez-vous nous présenter ces deux magnifiques salles ?
Bonjour, tout d'abord, ce sont effectivement des salles qui forment le pendant des deux grands réfectoires ouverts dans l'aile occident, dans lesquels sont actuellement développées les armures relatives aux souverains d'Europe ou aux collections royales. Donc en face de ces deux réfectoires, dont l'un d'eux a été décoré par Paroissel et révélé par les restaurations des années précédentes, se trouvent deux pièces identiques de plus de 300 mètres carrés avec presque 7 mètres de hauteur sous plafond, dans lesquelles déjeunaient et dînaient les pensionnaires de l'Hôtel des Invalides depuis l'époque de Louis XIV. Ces deux salles, aujourd'hui, sont réhabilitées. Les peintures ont effectivement été nettoyées et rénovées pour certaines d'entre elles. La majorité d'entre elles, en fait. Elles sont dues à Friquet de Vaurose, qui longtemps a été confondu avec un élève de Van der Meulen qui s'appelle Martin des Batailles. Mais elles ont été rendues récemment à Friquet de Vaurose. Et comme les peintures des deux réfectoires de l'aile occident traitent des guerres de dévolution et des guerres de Hollande. Donc il s'agissait en fait de sujets très contemporains qui étaient présentés sous les yeux des pensionnaires qui souvent avaient participé à ces campagnes. Il fallait donc être particulièrement précis dans la représentation, ce qui pour nous est un gage en quelque sorte d'authenticité du document historique. Les deux salles sont incluses dans le parcours muséographique en introduction, en quelque sorte, à la visite de l'aile Orient. L'une d'entre elles, qui s'appelle aujourd'hui réfectoire Turenne, est consacrée à l'histoire de l'Hôtel des Invalides. Et la seconde, celle qui lui fait face, aujourd'hui salle Vauban, est consacrée à l'histoire du Musée de l'Armée à travers la présentation d'une collection de mannequins de cavaliers.
Cavaliers qui vous ont posé quelques problèmes pendant les années de restauration, non ?
Il faut bien avouer que ce sont des pièces très inhabituelles. Ces mannequins de cavaliers sont pour certains très anciens. Certains d'entre eux appartenaient aux collections des peintres maçonniers et de taille et se trouvaient dans leurs ateliers, leur ont servi de modèle. On pense par exemple au mannequin du 23e dragon qui représente dans les salles la période du consulat et que de taille a fréquemment représenté dans de nombreux dessins. Quant aux chevaux, ce sont également des pièces d'authentiques morceaux de sculpture, il faut bien le dire comme ça. Certains d'entre eux ont été réalisés dès la fin du 19e siècle, à partir des années 1889 pour l'exposition universelle et pour l'exposition suivante en 1900, par les ateliers des sculpteurs Tourguenev et Pompon. Chaque cheval est entièrement différent des autres, à la fois dans sa robe, dans sa morphologie, sa musculature, son emploi, son attitude. Et chacun d'entre eux correspond en fait à un véritable morceau de sculpture animalière. Le tout donc couplé avec des mannequins qui vont des origines du Musée de l'Armée à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60. Certains mannequins en résine sont venus compléter la collection dont je vous parlais précédemment. Était formée effectivement une collection assez complexe à mettre en œuvre, sans compter le fait que nous nous sommes attelés à une authentique critique d'authenticité pour la plupart de ces mannequins qui ont fait l'objet à la fin des années 60, lors de la précédente rénovation du musée, d'un rassemblement de pièces parfois un peu disparates, certaines authentiques, certaines reconstituées, certaines fortement rénovées, pour pouvoir présenter aux visiteurs une sorte de spectaculaire cavalcade dans ce réfectoire.
spectaculaire, vous avez employé le mot, et ça tient aussi à la vitrine qui présente cet ensemble de cavaliers qui est en effet tout à fait spectaculaire.
Je vous remercie de cette...
Puisqu'il faut préciser peut-être qu'elle est l'œuvre donc, de Saint-Gobain et elle a des dimensions hors normes.
Oui, il faut bien avouer que cette vitrine est un exploit technique à plusieurs égards. Plus de 33 mètres de long pour 5 mètres de haut et un tout petit peu plus de 3 mètres de large. C'est donc un immense morceau muséographique à peu près jamais vu, avec un verre qui répond parfaitement aux propriétés muséographiques, le plus transparent possible, qui change le moins possible la couleur des pièces qui se trouvent derrière, et surtout une mise en œuvre avec une structure entièrement suspendue sous plafond, les éléments de verre étant ensuite simplement calés en bas dans un élément décaissé du sol. Donc aucune structure apparente, les éléments d'aluminium chromé qu'on peut voir entre les pièces de verre sont là strictement pour assumer la jointure entre les diverses plaques et non pas du tout la structure.
Il faut aller voir sur place pour se rendre compte. Nous allons maintenant passer au premier étage et donc à la fin du parcours qui a donc été ouvert au public dès l'année dernière. Donc les dernières salles présentées concernent la période qui s'étend de 1815 à 1870, comme je le disais, donc des 100 jours à la Commune. Et ça commence donc par 1815, c'est-à-dire les 100 jours, mais aussi la défaite de Napoléon à Waterloo. Et un objet est particulièrement émouvant, c'est la fameuse cuirasse transpercée du carabinier Fauveau. Pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Deux mots, oui, 100 aussi, si vous le souhaitez. Cet objet, effectivement, ouvre le parcours de visite des salles qui viennent à l'instant de rouvrir, d'une défaite à l'autre, hein, puisque vous disiez tout à l'heure de 1815 à 1870, c'est un peu pour nous de Waterloo à Sedan. Ce qui prouve que le musée de l'armée s'est aussi regardé en face l'histoire de France avec la plus grande objectivité possible, cette deuxième partie du parcours étant essentiellement faite d'expéditions militaires, se recouvrant aussi une époque peut-être un peu moins glorieuse que la précédente. La cuirasse du carabinier Fauveau, à cet égard, est un objet qui a été ressenti comme emblématique des collections dès l'origine du musée, puisqu'il appartenu à l'un des tout premiers donateurs aux origines des collections de la galerie historique du musée de l'armée, avant même que celle-ci ne fusionne avec le musée d'artillerie pour former l'actuel musée de l'armée. Elle semble avoir été retrouvée sur un champ de bataille, selon le témoignage du collectionneur, celui de Waterloo, et en tant que telle, transpercée par un boulet de calibre 8. Selon les spécialistes d'artillerie, il semblerait que ça corresponde à ce calibre-là. La cuirasse est entièrement détruite. Il lui manque aujourd'hui l'élément de matelassure dans laquelle pouvait se trouver la petite pochette où on aurait eu le livret, le carnet de route, en quelque sorte, du carabinier Fauveau. Mais ses états de service au service historique de la Défense nous permettent de tracer un petit peu sa personnalité, ou du moins qui il était. Il mesurait plus d'un mètre 80 pour être carabinier, c'était un prérequis. Apparemment, il avait les cheveux blonds roux et une petite moustache à l'avenant. Et il était très jeune, à peine une vingtaine d'années, et s'était engagé au mois de mai 1815, dans l'armée. Donc en quelque sorte, il s'agit là, peut-être on pourrait l'identifier à la figure de Fabrice, mise en œuvre par Stendhal, qui lui aussi connaît le feu pour la première fois à Waterloo, mais qui a plus de chance que notre carabinier, puisque celui-ci, après un mois à peine sous les drapeaux, termine ainsi sa carrière militaire avec la charge des carabiniers distincte de celle des cuirassiers emmenée par le maréchal Ney précédemment. Une charge qui a tous les caractères propres à lever l'émotion, au sens où c'est un peu la charge ultime, celle du désespoir, et celle aussi où on charge une batterie d'artillerie pour la prendre, en quelque sorte symbolisant ainsi la fin aussi de cette époque où on pouvait encore envisager de prendre une batterie en chargeant avec la cavalerie. Par la suite, l'intensification du feu d'artillerie, le progrès des matériels ne permettra plus ce type de manœuvre, et en quelque sorte, c'est un peu le symbole de la fin d'un monde aussi, cette cuirasse. La fin d'un empire, la fin d'un monde, la fin d'une vie, un sacrifice parmi tant d'autres.
Alors, la bataille de Waterloo est également évoquée d'une autre manière et je voudrais qu'on en dise deux mots parce que c'est une des nouveautés de ce parcours au Musée de l'Armée. Ce sont donc les plans multimédia qui permettent de présenter et détailler une bataille. Il y a 5 pôles bataille qui ponctuent le parcours et donc Waterloo en fait partie. Comment fonctionnent ces pôles ?
Alors, ces pôles bataille ont été conçus par les membres du Musée de l'Armée avec le soutien d'historiens spécialisés. On peut citer par exemple Jean-Pierre Bois ou Hervé Drivillon pour la période des XVIIe et XVIIIe siècles. On peut citer également Jacques Garnier, un des plus grands spécialistes des batailles napoléoniennes et notamment d'Austerlitz, qui nous ont assistés pour faire comprendre en 6 minutes tout le déroulement d'une bataille ou d'un élément de campagne. Donc les 5 batailles traitées sont 4 batailles à proprement parler et une campagne, donc 4 sur le plan tactique et une plus sur le plan plutôt stratégique. La bataille de Rocroi, au tout début de notre période, avec la victoire du duc d'Enghien et sa cavalerie sur les tercios espagnols réputés invincibles. La bataille de Fontenoy en 1745 qui met en avant la victoire théorique des tenants de l'ordre mince sur la colonne des Anglais représentant l'ordre profond. La bataille d'Austerlitz, la mère de toutes les batailles, considérée comme l'un des chefs-d'œuvre stratégiques, un cas d'école dès quasiment le lendemain de sa réception auprès de l'ensemble des théoriciens du monde militaire. La bataille de Waterloo, un peu comme symbole aussi de la fin d'un certain nombre de tactiques et la fin en quelque sorte parce que tous les autres adversaires de l'Empire ont pris aussi la mesure et appris les leçons que leur a enseignées durement Napoléon au début de son règne. Quelque part, c'est la preuve que l'on passe à autre chose. Et puis, donc, en dernier, nous n'avons pas choisi de traiter seulement une bataille, mais de montrer l'ensemble des mouvements de troupes qui ont conduit à la bataille de Sedan, donc de juillet 1870 jusqu'au mois de septembre. Ces pôles bataille s'étendent sur à peu près 2 à 4 mètres carrés. Ils sont projetés sur un écran blanc à 50 cm du sol pour montrer l'ensemble des éléments du relief, des forces en présence, des commandants, de la nature des diverses troupes. Bon, le tout est accompagné d'un commentaire audio, lui-même agrémenté de sons qui permettent de mettre en contexte, en quelque sorte, les événements et de mieux les faire vivre.
Vous évoquiez à l'instant, la disparition d'un monde, entre guillemets, entre la fin du Premier Empire et le 19e siècle pour l'armée. Donc, le parcours se poursuit avec la Restauration, d'abord avec les règnes de Louis XVIII et de Charles X. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle armée de la Restauration ?
En fait, elle change relativement peu, au moins à partir de 1815, par rapport à l'armée du Premier Empire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du point de vue de l'uniforme, par exemple, le chef-d'œuvre de réglementation uniformologique, selon le terme consacré et barbare, le chef-d'œuvre du Premier Empire en la matière, qui est le règlement dit de Bardin en 1812, illustré par des dessins splendides de Vernet, ce chef-d'œuvre, en fait, est appliqué véritablement par la Restauration et non pas par le Premier Empire, qui n'en a pas eu les moyens entre 1812 et 1814. Donc, il est assez frappant d'abord de voir que, en termes d'uniforme, l'allure des soldats de Louis XVIII est identique à celle de la fin du Premier Empire et même applique mieux qu'à cette période le règlement mis en œuvre en 1812. Le véritable changement en uniformologie est d'abord et avant tout symbolique. De nombreuses plaques à l'aigle sont remplacées par les grandes armes et par les fleurs de lys, de la même façon aussi pour les retroussis des basques, etc. Ce qui change aussi, c'est que le roi, le pouvoir royal, essaye de reprendre en main l'armée qui a été un des principaux soutiens de Napoléon Ier au moment des 100 jours, et donc réorganise la formation, notamment des officiers, à travers l'école de Saint-Cyr, réorganise aussi l'avancement, tout l'encadrement en fait militaire, plaçant également en demi-solde, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire à la retraite forcée les plus anciens et fidèles soldats de l'Empire, et que petit à petit, avec les réformes de la loi Gouvion-Saint-Cyr notamment, se met en place une armée destinée à assurer le prestige militaire d'une France vaincue, mais qui entend malgré tout continuer à assurer une place de premier plan dans le concert des nations européennes. C'est le but de la politique de Louis XVIII. Le militaire n'en est qu'un aspect, c'est de conserver à la France une place essentielle malgré la défaite. Et quelque part, l'expédition du Trocadéro, l'expédition d'Espagne menée par le duc d'Angoulême, son neveu, en est un bon exemple.
merci Émilie Robe. Nous allons marquer une courte pause. Nous nous retrouvons dans un court instant.
Comment le cerveau du mathématicien se mesure à la réalité mathématique ? David Ruel, membre de l'Académie des sciences, dresse le portrait de plusieurs célèbres mathématiciens, depuis Newton jusqu'à Alexandre Grothendieck. Les hommes sont-ils les créateurs des mathématiques ? Réponse en compagnie de David Ruel à travers son livre « L'étrange beauté des mathématiques » dans une émission « Au fil des pages », une émission libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes toujours en compagnie d'Émilie Robe, conservateur du département moderne au Musée de l'Armée, venue nous présenter les nouvelles salles. Nous en étions à la Restauration, nous allons passer à la Monarchie de Juillet et à Louis-Philippe. La France se lance dans des expéditions lointaines. Sur le plan militaire, cela va-t-il changer quelque chose ?
Sur le plan militaire, on peut dire que la Monarchie de Juillet n'est peut-être pas l'un des exemples les plus cruciaux de la période, mais ce qui est vraiment indispensable à comprendre pour ce qui est de l'armée de ligne, en fait, c'est que les expéditions, notamment en Afrique du Nord, peuvent donner un certain nombre de nouveaux développements à l'armée et à la conduite de la guerre en elle-même. C'est en cela que la Monarchie de Juillet est un moment indispensable, crucial à prendre en compte dans l'histoire militaire, mais finalement, ça change assez peu de choses à l'organe principal qui est l'armée de ligne, et la création de nouvelles unités, notamment, par exemple, on peut penser à la Légion étrangère et aux unités de l'armée d'Afrique, sont les prémices de ce qui deviendra par la suite le changement fondamental, en fait, ce qui conduira le changement fondamental de la conduite de la guerre à la fin du XIXe siècle.
D'un autre côté, c'est aussi, sur le plan intérieur, l'apparition de la garde nationale.
L'apparition de la garde nationale, non, son triomphe, oui.
Pardon, le triomphe de la garde nationale, vous présentez d'ailleurs tout un ensemble de pièces sur la garde nationale, une vitrine lui est consacrée.
Oui, une vitrine qui présente effectivement à la fois des tableaux montrant les gardes nationaux et la façon assez amusante, quelque part, avec le recul, dont sont conçus les uniformes de la garde nationale qui imitent en tout point ceux des unités de l'armée régulière les plus prestigieuses, alors que finalement, si pour reprendre les expressions les plus polémiques, on peut aussi considérer la garde nationale comme une bande de bourgeois habillés en militaire. C'est assez symptomatique aussi peut-être de ce nouveau régime et d'une certaine idée du soldat citoyen. Le règne de Louis-Philippe, roi des Français, roi citoyen, ne pouvait pas mieux s'incarner effectivement que dans la garde nationale.
Alors, un espace est également consacré à la Seconde République, courte période politique, mais que vous avez choisi donc d'évoquer. En quoi est-ce important ? Qu'est-ce qui se passe pour l'armée pendant cette courte période ?
Alors, cette courte période, nous avons choisi de l'évoquer parce que nous en avons les moyens à travers notamment un certain nombre de portraits et d'objets autour du général Cavaignac, qui fut l'un des adversaires malheureux, comme vous le savez, de Napoléon, Napoléon Bonaparte, au moment des élections de 1848. Et Cavaignac est représenté dans les collections du musée par un certain nombre d'objets qui lui ont appartenu, notamment un képi et une longue vue, ainsi qu'un beau portrait que nous avons choisi de présenter en face à face, justement avec celui, alors c'est pour le coup, de Napoléon III empereur, le portrait officiel d'après le modèle fourni par Winterhalter, qui effectivement nous montre combien la France, la nation française à ce moment-là, a eu de choix possibles qui se sont ouverts à elle et combien, à travers notamment l'important poids politique de militaires comme Cavaignac ou comme Louis-Napoléon Bonaparte, s'est décidé son avenir.
Alors le Second Empire sera une période plus importante pour l'armée, avec d'un côté des résurgences du Premier Empire, mais aussi des réformes, puisque c'est à cette période, n'est-ce pas, qu'apparaît le chassepot, non le fusil chassepot ?
Oui, absolument. Alors, pour ce qui est des résurgences du Premier Empire, elles sont indispensables en quelque sorte. L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence, nous venons d'en parler, s'est faite en partie parce que l'image du grand Napoléon a pu beaucoup, ou son ombre, a pu se voir, se lire au moment des élections derrière la figure de son neveu. Mais les résurgences du Premier Empire sont d'abord et avant tout symboliques. à proprement parler. Elles permettent de remettre sur pied un régime qui, depuis plusieurs décennies, était entré dans la légende. Et en le faisant revivre ainsi, en remettant sur pied une garde impériale, en replaçant sur les gibernes l'aigle impérial, on se plaçait en quelque sorte dans une continuité qui n'effaçait pas les héritages précédents. C'est un peu là. Beaucoup l'intelligence aussi de ce souverain qu'est Napoléon III, mais on redonnait une certaine idée du prestige de la France et d'un point de vue international, ça a pu être aussi relativement mal perçu, ne nous leurrons pas. Par contre, pour ce qui est des réformes, effectivement, le Second Empire est un moment crucial de l'effort industriel français. Pensons au développement de chemins de fer, mis en œuvre dès le règne de Louis-Philippe, mais véritablement, qui connaît véritablement un grand essor au moment du Second Empire. Pensons à la mise en place de structures industrielles et aussi au grand intérêt que vouait Napoléon III lui-même au progrès technologique. Lui-même, qui avait commencé un peu sa carrière militaire en publiant une brochure consacrée à l'artillerie, n'a jamais perdu son intérêt pour cette arme et pour tout ce qui était le progrès industriel. Donc effectivement, la mise en œuvre de nouveaux fusils à aiguille du type Chassepot, qui ont vu des essais malheureux en Italie, notamment à Mentana, mais aussi la recherche d'une artillerie plus performante, que curieusement, on ne voit pas se mettre en œuvre face aux fameux canons Krupp au moment de la guerre de 1870, puisque les Français ont encore des bouches à feu en bronze à chargement par la bouche, mais dont on voit malgré tout les efforts à travers les essais, par exemple, du fameux canon à balles de Réfi, l'ancêtre de la mitrailleuse, capable de tirer des salves de 5 balles mortelles, mais dont l'armée française était finalement peu équipée en nombre et surtout à laquelle elle était mal préparée, puisqu'il s'agissait d'une arme secrète, tellement secrète que même les artilleurs n'étaient pas prêts à son maniement.
Nous arrivons donc à la fin du parcours et aussi à la fin de l'émission. Je voudrais juste qu'on précise donc cet ensemble de l'histoire de l'armée, finalement, présente d'un côté le contexte politique et d'un côté le contexte militaire, que contrairement à la première partie du parcours, c'est d'un seul tenant, entre guillemets, il n'y a pas un corridor au centre qui vise chaque espace, et que le tout est ponctué de bornes multimédia, extrêmement claires d'ailleurs, qui permettent d'approfondir certains points si on veut. Et j'y pense entre autres au sujet de l'armement, puisqu'on voit très bien le passage pour les fusils avec le chassepot justement, où on passe du fusil à culasse, enfin chargement par la culasse et tout ça. Tout ça est vraiment très très bien indiqué et s'adresse à un public extrêmement varié. Je voulais vraiment le préciser. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter, Émilie Ropp ?
Je n'ai à ajouter qu'une seule chose, c'est que nous venons de parler d'éléments absolument concrets, du type canon à balles, fusil à percussion, etc. Mais nous avons aussi, comme dans l'ensemble du parcours précédemment, essayé de mettre à la disposition de notre public, qui en fait n'est pas qu'un public d'amateurs de la chose militaire, l'ensemble des informations dont nous venons de parler, et que pour l'ensemble de ces salles, nous faisons parler les objets qui ont des histoires à raconter, qui sont parfois aussi en eux-mêmes de superbes pièces d'artisanat, des costumes brodés d'or ou des armes de luxe dans des coffrets de velours. Nous essayons en quelque sorte de parler à tous. Et pour moi qui suis une femme avec une formation peut-être un peu différente de celle de l'amateur de militaria premier, je vous avoue que j'y retrouve particulièrement mon compte et j'espère que l'ensemble de notre public se fera plaisir.
Merci infiniment Émilie Ropp. J'invite vivement donc nos auditeurs à découvrir ces nouvelles salles du Musée de l'Armée. Ils découvriront un musée moderne, didactique, cohérent et surtout agréable à la visite. Au revoir à tous.
Merci.